locataires, spas, mobilier de jardin, pavillons, chauffe-eau, robots, la super vente de déstockage Trévi, aujourd'hui jusqu'à 21h, demain et dimanche, à votre Trévi de Québec. Trévi, une longueur d'avance.
Salut, c'est P.A. Hey, l'autre jour, en mettant mon vieux manteau, j'ai trouvé 10 piastres qui étaient restés dans mes poches. Hey, c'est-tu le fun, hein, de trouver de l'argent?
Ce mois-ci, chez Sainte-Foy Nissan et Beauport Nissan, le taux de financement à l'achat du Kicks, du Rogue et de la Sentra est à 0%. À 0%, ça met de l'argent dans vos poches. Et quand on sait que Nissan est numéro 1 pour la qualité des véhicules neufs selon J.D. Powers, ben là, c'est le temps de quoi?
C'est le temps de changer.
On vous attend chez Beauport Nissan et Sainte-Foy Nissan.
Chez Performance Emma, les prix sont imbattables. Obtenez le VTT Touring 550 Guardian à partir de 8 999 $ ou le UTV Strike 550 de 14 199 $. PerformanceEmma.ca sur la côte de Beaupré.
T'es ferblantier, frigoriste avec tes cartes CCQ? Chez Hi-Tech, c'est un bon fit assuré. Du temps plein, un salaire commercial, des chantiers d'envergure avec les grands maîtres constructeurs, du travail à l'année, puis une gang vraiment soudée. Postule au hi-techclimatisation.com.
Qui dit automne dit les devoirs, les cours de piscine et les cours de danse. Et entre tout ça, prenez une petite pause bien méritée. Laissez PFK s'occuper de vos repas. PFK, c'est des produits 100% canadiens préparés sur place et frais en tout temps. De quoi régaler toute la famille. Passez-nous voir chez PFK à Sainte-Marie, Montmagny, Donnacona, Vanier-Amel, Saint-Nicolas, Galerie de la Capitale, Beauport voisin de la SAQ et au 840 Bouvier. Cet automne, pensez PFK, le meilleur poulet frit au monde.
Voici une offre incroyable. Incroyable de Beauport Mazda. Mazda 630 2025, 93 $ par semaine en location 48 mois avec 1 685 $ comptant, Boni Mazda inclus. Beauport Mazda, rue Clémenceau, 667-3131. Voici une offre incroyable de Beauport Mazda. Mazda 630 2025, 93 $ par semaine en location 48 mois avec 1 685 $ comptant, Boni Mazda inclus. Beauport Mazda, rue Clémenceau, 667-3131.
Ready! Procurez-vous votre forfait pour le Tailgate Radio X.
Radio X.
Du Rouge et Or Football.
Football!
Pour le match contre les Stingers de Concordia le dimanche 5 octobre. Pour 45 $ plus taxes, le forfait comprend ton billet pour le match, une bière de Ralbok, une pointe de pizza de Stratos Pizzeria, un hot dog offert par Rêve Sportif, un demi-sandwich smoked meat de Brin Smoked Meat, un morceau de poulet frit Dixili, une bouchée sucrée d'Équilibre Traiteur et une dégustation de la distillerie Stadacone. Achetez votre forfait au boutique.radiox.com. Faites vite, quantité limitée. Une collaboration anti-rouille Crown. Trouve le centre le plus près au crown.com.
Radio X. Les manchettes sportives, présentées par BPM Sport.
BPM Sport.
La radio des sports au Québec.
Hey, c'est Jordan. Dans la Ligue nationale, le Canadien s'est fait solidement rincer hier. Défaite de 7-2 contre les Maple Leafs à la maison. Scott Laughton des Bleus s'est particulièrement démarqué dans le match avec 4 points amassés dans la victoire. Outre les compteurs du match parce que ça veut rien dire, c'est plus le facteur blessure qui est préoccupant. Et Noah Dobson et Caden Goulet chez le Canadien se sont blessés à l'aine. On dit qu'ils seront réévalués quotidiennement. Il est vraiment temps qu'on diminue le nombre de matchs préparatoires. Ça va paraître dès l'an prochain. Maudite bonne nouvelle. Bref, prochain match demain 19h à Toronto. Parlant de Ligue nationale, je vous rappelle que les Sénateurs arrivent à Québec ce week-end. Une série de deux matchs au Centre Vidéotron qui débutera ce dimanche alors qu'Ottawa affrontera les Devils du New Jersey dès 15h. Le CH arrivera en ville mardi prochain. D'excellents billets encore disponibles pour dimanche. Vous viendrez faire un tour. Dans la LHJMQ, le périple en Abitibi se poursuit pour les Remparts de Québec ce soir. Début de saison difficile.
Ouais.
Les Diables Rouges ont perdu hier soir à Rouyn-Noranda contre les Huskies 5-3. Une remontée signée Thomas Verdon qui inscrit un tour du chapeau pour les locaux. L'action recommence ce soir 19h, toujours contre les Huskies. On terminera le tout dimanche à Val-d'Or.
Pour plus de sport, c'est BPM Sport.
BPM Sport.
100.9.
Présenté par les cliniques hernie discale. Douleur au dos, aux nerfs sciatiques, en deux semaines, on vérifie l'efficacité de la décompression discale et on vous oriente. Clinique herniediscale.com, 2750 chemin Sainte-Foy.
Choix.
Choix.
98.
98.
1. Radio X. À Québec, c'est Radio X. Choix.
Radio X.
Faites-vous votre propre opinion.
Oh my God.
Radio X-Files
avec Christian Page.
Radio X.
Bon vendredi soir, bienvenue dans les Radio X-Files sur les ondes de Choix 98.1 Radio X. Sans plus attendre, celui que vous aimez écouter, Christian Page, bon vendredi.
Bon vendredi.
Passez une belle semaine.
Oh oui, une semaine très occupée,
oui,
mais une bonne semaine. Écoute, puis en même temps, il faut quand même que je le dise, je sais que les gens qui sont des assidus de Radio X connaissent un petit peu mes petits problèmes de santé,
oui,
mais là, je peux le dire, j'ai vu mon médecin et ça fait 5 ans maintenant que j'avais été diagnostiqué d'un cancer et j'ai vu mon médecin et ça a été confirmé, je suis maintenant guéri.
Wow.
C'est même plus une rémission, c'est la guérison.
C'est ce qu'on dit dans sa félicitation?
Oui, c'est ça, bon, on est toujours content, hein,
ben,
parce que comme tu connais l'expression, hein, quand la santé va, tout va,
tout
là, ben, c'est un peu la même chose. T'sais. On est toujours... le spectre du cancer est toujours quelque chose de...
Mais c'est une excellente nouvelle, ça.
Donc, oui, absolument.
C'est officiellement, après 5 ans, on est officiellement remis, guéri. Risque de récidive, tout ça.
C'est ça. Non, en fait, le discours, c'est si éventuellement tu développes un autre cancer, parce que, bon, quand t'en as eu un, t'es toujours un peu plus à risque d'en avoir. Mais si demain matin, ou on le souhaite pas, mais si dans les prochaines années, j'aurais un autre cancer, il y aurait, scientifiquement parlant, il y aurait aucune causalité. C'est-à-dire que c'est très rare que... Si je développe un cancer du poumon dans 3 ans, ben c'est un cancer du poumon. Ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai eu un cancer du côlon. Parce que, bon, le cancer du côlon... en tout cas, à tout le moins, jusqu'à maintenant, les données scientifiques ne montrent pas une causalité dans ce sens-là.
Entrons rapidement dans les sujets de ce soir parce que, bon, vous le savez, le temps file assez rapidement à la radio. Donc, parapsychologie et cryptozoologie, c'est ce qu'on va parler ce soir.
C'est ça. Donc, c'est dans notre fameuse grille, on a comme 4 thèmes qui reviennent de manière cyclique. Là. Et cette semaine, ben, c'est notre deuxième dans les thèmes. C'est le thème parapsychologie et cryptozoologie. Hein. C'est le deuxième thème de la roue. Et la cryptozoologie, faut-il la rappeler aux gens qui nous écoutent, c'est l'étude, entre guillemets, entendons-nous, hein, l'étude des animaux inconnus ou méconnus de la science. Donc, évidemment, on connaît tous les super vedettes, le Yeti, le monstre du Loch Ness et tout le reste. Là. Mais bon, c'est plus vaste que ça, la cryptozoologie. Et d'ailleurs, ma première nouvelle, hein, on fait un peu le tour de ces actualités. Ma première nouvelle touche justement cet univers de la cryptozoologie. On a appris il y a quelques jours le décès de Jeff Meldrum. Puis je voulais absolument revenir là-dessus parce que c'est un personnage que j'ai rencontré à quelques reprises. Et c'était vraiment un passionné. Et j'aime les gens qui sont passionnés, même si je partage pas forcément leurs opinions, dans la mesure où ces gens-là sont réceptifs, puis il y a des échanges qui sont constructifs. Jeff Meldrum était de cette catégorie-là. Donc, il est décédé le 10 septembre dernier. Il est né en 1958, donc on fait le calcul, là, c'est quand même relativement jeune, hein, il y a même pas encore 70 ans. Il est décédé d'une tumeur au cerveau. Et qui est-il? Ben pour les amateurs de cryptozoologie, particulièrement ceux qui s'intéressent aux histoires de Bigfoot, Sasquatch là, aux États-Unis, ben c'est une grosse perte, hein, parce qu'on sait que dans cet univers-là, il n'y a pas beaucoup de scientifiques qui prennent position, hein, et surtout des prennent position pour. Et dans le cas de Jeff Meldrum, qui lui était quand même un scientifique, hein, c'est un professeur d'anatomie et d'anthropologie au département des sciences biologiques de l'Université de l'Idaho, quand même un poste prestigieux. Il était diplômé en zoologie. C'était un type qui était un ardent défenseur de l'existence du Bigfoot. Ça m'a toujours un peu étonné, les quelques fois qu'on s'est rencontrés. Bon, je vais te raconter un peu l'anecdote. Il y a de très nombreuses années, j'avais obtenu, bon, dans l'histoire du Bigfoot, il y a un film qui revient régulièrement sur le devant de la scène avec des discussions très enflammées. C'est un film qui a été tourné en 1967, en octobre 67, le 20 octobre 67, par un certain Roger Patterson. En fait, Patterson était avec un de ses amis qui était également un fin pisteur là, en forêt, okay. Un type qui s'appelait Robert Gimlin. Donc, ces deux individus, Roger Patterson et Bob Gimlin, se sont retrouvés donc près de Bluff Creek, dans le nord de la Californie, et ils ont filmé avec une petite caméra de 16 mm. Ils ont filmé, ils ont tourné un petit peu moins d'une minute, je crois, c'est 58 secondes d'image. Et où on voit un Bigfoot qui marche devant, en fait, devant la caméra. Tu as probablement vu ces images-là. Elles sont tournées de jour.
Oui, oui.
C'est des films. Dès qu'on parle du Bigfoot, c'est la première image que l'on voit. C'est une photo tirée du film Patterson. Particulièrement lorsque la créature se tourne vers Patterson. Elle a les bras ouverts de chaque côté. Elle a une poitrine féminine, ce qui montre que c'est une créature femelle avec une longue enjambée. Ce film-là, tourné en 1967, demeure encore aujourd'hui, pour les amateurs, entendons-nous, la meilleure preuve de l'existence du Bigfoot. Donc pour eux, là, c'est quand même étonnant qu'on doit toujours en revenir à un film tourné en 16 mm dans les années 60 quand on pense aujourd'hui l'accessibilité que l'on a vers des caméras dans notre poche avec les téléphones portables et tout le reste. Il n'y a aucune image aussi claire, aussi précise, aussi détaillée que ne l'est le film de Roger Patterson. C'est un film qui fait débat parce que, bon, d'un côté, tu as ceux qui disent c'est rien d'autre qu'un gars dans un costume de
scène. Ben, on dirait ça, oui.
Et d'un autre côté, tu as ceux qui croient en la réalité de la créature. Il faut quand même le dire, à la défense de Roger Patterson et à la défense de gens qui croient, c'est que le film en lui-même, évidemment, au premier coup d'œil, on est tenté de dire ben, c'est un gars dans un costume. Mais l'avènement de nouvelles sciences, le fait qu'on ait pu numériser les images, parce qu'au départ, elles étaient tournées, comme je l'ai mentionné, en 16 mm, le fait qu'on ait pu améliorer ces images-là par la numérisation, le fait qu'on ait pu stabiliser les images, parce que sur les 58 ou 59 secondes que dure le film, il faut savoir qu'il y a à peu près la moitié du film où on voit strictement rien. La façon dont Roger Patterson et Bob Gimlin ont raconté les événements, ils arrivent dans la clairière. Il ne voit pas immédiatement la créature. Le cheval de Roger Patterson, Innie, se lève sur ses pattes de derrière. Okay. Il désarçonne Roger Patterson. Le cheval, apparemment, a senti la présence du Bigfoot. Là, je te raconte ça tel qu'eux le racontent et dans la vision de « j'y crois hein? ». Donc, l'animal, donc le cheval Innie, Patterson est désarçonné. Il se relève et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il voit la créature qui est devant lui à quelques dizaines de mètres. Elle semble se relever comme si elle était accroupie. Elle semble se relever et commence à marcher. Patterson, il y a beaucoup d'éléments là-dedans qui sont louches, hein, parce que Roger Patterson n'était pas là par hasard. Roger Patterson, crois-le ou non, était là pour tourner un documentaire sur le Bigfoot.
Ah, tiens
ça
donc.
Tombe bien. Hein, ça tombe bien, hein, le gars, tu sais, toi, tu dis, moi, je m'allais filmer un documentaire sur les fantômes, puis les fantômes apparaissent en même temps. La coïncidence est incroyable, quand même.
Évidemment. Donc,
puis la caméra n'était même pas la propriété de Roger Patterson. Il l'avait loué,
en
donc
plus.
Il était sûr de son coup quand même. Hein?
Quand même.
Mais donc, Roger Patterson se lève, se jette sur son cheval. Cheval qui a des sacoches de chaque côté et la caméra est dans l'une des sacoches. Donc, il s'empare de la caméra et se met à courir en direction de la créature. Là aussi, on a un réflexe qui est quand même assez étonnant. Si moi, je me retrouve dans le bois devant un Bigfoot, j'aurais tendance plutôt à courir dans le sens contraire du Bigfoot que vers lui. Mais bon, Roger Patterson prend sa caméra, il l'a au point. Bon, c'est une caméra 16 mm carrée avec une petite poignée. Donc, il court en direction de la créature. Et en même temps qu'il court, il tourne des images. Donc, il appuie sur le déclencheur et la caméra tourne. Il faut se rappeler qu'à l'époque, les films 16 mm étaient des petites bobines de film qui duraient en moyenne de 3 minutes. Et à ce moment-là, Patterson a déjà tourné 2 minutes de film qu'il a tourné dans les jours précédents. Bon, il a filmé un écureuil, il a filmé une moufette, un blaireau, tu comprends? Il s'est filmé, lui, à cheval.
Oui.
Donc, il y a à peu près 2 minutes qui est déjà occupé, qui a déjà été utilisé au cours des jours précédents. Donc, il reste à peu près 1 minute de film vierge. Donc, Patterson, en voyant la créature, se jette sur son cheval, prend la caméra, se met à courir vers la créature. Il va, et là, évidemment, en courant, il filme, mais bon, on voit rien puisqu'il court en même temps. Il va même trébucher. Il trébuche, se relève, et là, ce n'est qu'à ce moment-là qu'il décide de rester sur place. Donc, à partir du moment où il se relève, il prend une position statique, et là, on voit pendant, grosso modo, là, 25 secondes, 30 secondes maximum, on voit clairement ce qu'il filme. Là. On voit la créature qui marche. Bon, elle va se tourner vers lui. En fait, elle se tourne vers Bob Gimlin, parce que Bob Gimlin, pendant ce temps-là, ne reste pas inactif. Ils se sont pas entendus, hein, c'est toujours encore une fois parce que j'ai rencontré Bob Gimlin. Roger Patterson est décédé au début des années 70, donc j'ai pas pu le rencontrer, mais j'ai rencontré à quelques reprises Bob Gimlin qui me disait que ils n'avaient pas d'entente entre eux. Hein. C'était pas de si on voit un Bigfoot, on va faire ci ou on va faire ça. Mais par réflexe, à partir du moment où Patterson se met à filmer la créature, Bob Gimlin décide de longer c'est le lit d'un petit ruisseau asséché. Là. Il songe à longer le lit du ruisseau à cheval et il tire d'un étui, une carabine de calibre 30-30. Et son idée n'est pas de tirer sur la créature, mais de tirer devant elle ou sur les arbres devant elle pour la forcer, si éventuellement elle voulait entrer dans la forêt, la forcer à faire demi-tour de manière à ce qu'elle reste plus longtemps sous l'œil de la caméra. Donc, Bob Gimlin commence à cheval, donc à longer la rivière, avec la rivière, le ruisseau, avec sa carabine en main. Et Patterson, lui, prend une position statique et va donc filmer pendant à peu près 30 secondes la créature. Bob Gimlin n'aura pas tiré parce qu'à un moment donné, après ces 59 secondes de film tourné, Patterson entend le clic-clic-clic-clic-clic. La caméra vient d'arriver au bout du film.
Bon.
Alors, attends, ça va pas bien. Donc là, il crie à Bob Gimlin, « OK, arrête, j'ai plus de film. » Il faut également savoir qu'à l'époque, on ne changeait pas un film comme on change une cassette dans une caméra là, ou un truc comme ça, on change le disque dur ou on met une nouvelle carte. Là. C'est pas ça. Là. Non, on a une bobine de film. Il fallait s'isoler. Et là, il y avait comme des espèces, on peut imaginer ça, là, je vais le décrire un peu sommairement, il y avait une espèce de mini-tente. Une mini-tente avec des gants introduits dans la mini-tente. Et donc, on mettait la bobine, on sortait le film, on mettait le film dans cette tente-là qui était absolument opaque, noire, avec la caméra. Donc, on mettait la caméra dans la tente, on refermait la tente. Et là, avec les gants, il fallait y aller à tâtons. Là, hein, il fallait bien connaître son instrument. Donc, à tâtons, on ouvrait le boîtier, on retirait le film, on le replaçait dans une petite boîte isolée et on remettait un nouveau film. Tout ça là, à l'aveugle, hein, simplement à tâtons. Ça prenait de longues minutes faire ça, là. Quand on était à l'extérieur, ça prenait de longues minutes. C'est sûr qu'à l'intérieur, on pouvait s'isoler d'une chambre noire, mais à l'extérieur, il fallait utiliser ce système-là. Donc, à partir du moment où Patterson entend le film qui clique au bout du rouleau, il dit à Bob Gimlin, « Ça donne rien de tirer, puis laisse-la partir. Je veux dire, j'ai plus, ça va prendre trop de temps à changer le film. » Donc, la créature rentre dans la forêt, puis elle disparaît. Ils vont réussir à la suivre sur quelques centaines de mètres après. Hein, ils vont voir ses empreintes, tout ça, mais tout d'un coup, on n'a plus de traces. Donc, ils vont changer le film. Dans le film suivant, on voit plusieurs images où on voit Roger Patterson en train de couler du plâtre de Paris dans les empreintes qu'a laissé la créature dans le sable, sur le fond sablonneux de cette petite crique asséchée. Bon, grosso modo, c'est ce film-là. Et c'est quand même étonnant qu'on en revienne toujours à ce film-là chez les amateurs de Bigfoot Sasquatch, alors qu'on se dit qu'aujourd'hui, on a quand même des moyens plus sophistiqués pour avoir de bonnes images. Oui. Mais visiblement, on n'en a pas. C'est toujours celle-là.
Pas d'autres, ouais, c'est ça.
Là où je voulais en venir, le point pertinent d'évoquer ce film-là, c'est que grâce à la numérisation, quand on voit le film la première fois, je me rappelle, la première fois que je l'ai vu, c'était dans les années 70. Oui. Ma première réflexion était un peu comme la tienne. Tu regardes ça, tu dis, t'es un gars d'un sou.
Bon, on dirait vraiment ça.
Ça a l'air d'un gars d'un sou. T'sais. Mais la numérisation des images a permis de révéler des détails que Roger Patterson n'aurait pas pu imaginer s'il était le faussaire. Roger Patterson ne pouvait pas imaginer en 1967 ce que la technologie permettrait d'aller tirer du film des années ou des décennies plus tard. Tu comprends? Il ne pouvait pas imaginer qu'on pourrait aller chercher chaque pixel de l'image ou des trucs comme ça, non? Et quand il tourne ces images, aujourd'hui, on a réussi à stabiliser le film, comme je l'ai mentionné, parce qu'au début, on voit à peu près n'importe quoi. Et même lorsqu'il prend une position statique, il bouge légèrement la caméra. On a l'impression d'être dans un mauvais épisode de 24 heures chrono, là, toujours la caméra qui bouge un peu. Donc, on a réussi à stabiliser cette image-là. Et on est allé chercher des détails sur la créature. Par exemple, au moment où il se tourne vers Roger Patterson, on voit sur sa cuisse, on voit comme le poil qui se soulève, ce qui laisse supposer un hernie. Mais si la créature... Mais ça, on ne peut le voir qu'avec la numérisation des images, avec une technologie plus moderne. Si Roger Patterson avait fabriqué un costume, et là, je parle comme si j'étais un convaincu, là. On va revenir après sur les éléments faibles, là. Mais si j'étais un convaincu, je te dirais, comment Roger Patterson aurait-il imaginé, dans son costume, mettre un espèce de mouvement du muscle qui crée comme la sensation d'un hernie, alors qu'à l'époque, l'image ne permettait pas de voir ce détail-là. Ensuite, pourquoi se casser le bessic, comme on dit, pour mettre une poitrine à sa créature? Parce que c'est un détail, c'est pas un détail simple. Tu dis, si tu loues un costume de gorille et t'as beau aller dans n'importe quelle costumerie, tu trouveras pas un costume avec des gros seins flasques et mous, là, tu sais, qu'on voit dans le film. Si Roger Patterson a confectionné le costume, il est peut-être parti d'une base d'un vieux costume de gorille qu'il a modifié. Mais pourquoi se donner ce problème-là d'ajouter une poitrine féminine, soutillante? Tu sais, c'est difficile, là. Puis le mouvement semble tout à fait naturel. Au fur et à mesure, on voit la créature qui avance dans la clairière. Bon, on a l'impression de regarder un épisode ou l'introduction de Alerte à Malibu, là. Tu comprends ce que je veux dire?
Absolument.
On
n'entrera
pas dans les détails, mais je pense que les gens ont compris, là. Donc, Patterson se serait donné beaucoup de problème pour créer un costume comme celui-là. Néanmoins, il faut quand même le rappeler, même si ces éléments-là semblent convaincants, il y a plusieurs problèmes avec le film. D'abord, dans le contexte dans lequel le film a été tourné. Hein. Tu tournes un documentaire sur le Bigfoot, puis le Bigfoot apparaît. Ça paraît toujours un peu louche. Roger Patterson, c'est un individu aussi qui était reconnu comme étant un petit escroc. Donc, ça aussi, ça aide pas beaucoup. Là. C'est un type qui était impliqué dans plein de... utiliser l'expression québécoise, toutes sortes de gamiques. T'sais, dès qu'il y avait une petite gamique quelque part, il y a quelque chose qui se passait dans le village de Croche, là, tout le monde disait, ça doit être Roger Patterson qui est derrière ça. Donc, c'est un nom qui revenait souvent. Et donc, ça tombe pas bien que ce soit lui qui ait tourné le film. Ça prouve pas que le film est faux. Mais disons que c'était pas... c'est certainement pas la crédibilité de Roger Patterson qui va donner des lettres de noblesse à ce film-là. C'est différent pour Bob Gimlin. Bob Gimlin est un individu impeccable. Donc, il est tellement impeccable que même ceux qui croient que le film est un trucage essaient d'imaginer un scénario dans lequel on doit exclure Bob Gimlin. Bob Gimlin n'aurait pas pris part, lui, volontairement à une fraude. Alors là, on se dit, est-ce que Bob Gimlin a été manipulé par Roger Patterson? Patterson engage un collègue pour porter le costume et s'assure de la présence de Bob Gimlin, qui est un individu impeccable, qui va devenir sa caution morale. C'est possible. Mais si toi, t'es le gars dans le soude, puis tu vois un individu qui longe la rivière, puis qui sort à 30-30, puis te la pointe vers toi, la première chose que tu vas faire, c'est t'arrêter, ôter ton masque, puis dire « Hey, c'est une blague, c'est un costume de gorille. » La créature fait pas ça. La créature ne semble pas du tout préoccupée par la présence des deux hommes. Néanmoins, donc, le film aujourd'hui continue de faire objet de débats. Et moi, à une époque, dans les années 80 ou 90, j'avais réussi à obtenir de la veuve de Roger Patterson un moulage du pied droit et un moulage du pied gauche de la créature. Et j'avais demandé à un paléontologue québécois, Michel Divergilio, d'utiliser les mêmes techniques qu'on utilise, par exemple, en paléontologie, une espèce de photographie en 3D pour essayer de voir si il y avait quelque chose dans ces moulages qui aurait pu démontrer, confirmer ou infirmer la créature. Et au départ, Michel Divergilio a fait l'analyse et il était un peu très sceptique, même il le fait presque en riant. Mais après avoir pris des photographies 3D des empreintes, il a été très troublé. Troublé, le mot est fort un peu, mais il était très surpris de découvrir que les moulages semblaient indiquer une ossature. Comme si la créature qui avait fait ça avait vraiment un vrai pied. Là. C'est pas simplement un pied sculpté dans une planche en bois. Là. C'est comme si on est vraiment en présence d'un pied articulé. Hein? On pouvait voir sur le moulage que le talon avait été planté en premier. Le pied avait roulé sur l'arche du pied. Les orteils s'étaient retirés en dernier. Exactement le genre d'empreinte que tu laisserais en marchant sur une plage. Et ça, Michel Divergilio ne l'explique pas. Il dit, c'est vraiment très étrange. Si c'est un canular, Roger Patterson avait non seulement beaucoup d'imagination pour faire le costume, mais il avait également des connaissances anthropologiques tout à fait extraordinaires pour réussir à recréer un pied comme celui-là dans le fond sablonneux. Donc, à partir de ce constat-là, bon, évidemment, ça ne m'a pas convaincu. je me suis retrouvé à l'Université de l'Idaho où j'ai rencontré ce fameux Jeff Meldrum. Et Jeff Meldrum était un ardent défenseur, comme je te dis, de l'existence du Bigfoot, convaincu, là, absolument convaincu du Bigfoot, et également convaincu du film de Roger Patterson. Donc, je discutais avec lui, mais on en revenait toujours un peu à la case départ. Pour lui, je cherchais des poux là où il n'y en avait pas. T'sais. Mais bon. C'était son opinion. Moi, la mienne, et que mon opinion est basée sur une simple information d'ordre anthropologique. Une créature comme le Bigfoot, là, une créature simiesque qui marche debout comme un humain, comme on le voit dans le film de Roger Patterson, ça n'a jamais existé. Jamais. Même quand on regarde dans les humanités reliques qui nous ont précédés, l'Australopithèque, ou etc. Puis souvent, on évoque le gigantopithèque, une espèce de grand singe qui faisait pratiquement 3 mètres de haut et qui est disparu à peu près 50 000 ans. Ben, ce grand singe était un grand singe. Hein. Même si les amateurs de Bigfoot aiment souvent nous le citer en exemple, faut-il le rappeler que le gigantopithèque était de la même catégorie que les gorilles. Donc, quand il marchait debout, ben, il faisait comme les gorilles. Il faisait 4 ou 5 pas, maladroit, en se dandinant. Mais généralement, quand il marchait, il appuyait ses poings sur le sol pour se déplacer. C'est pas ce qu'on voit dans le film Patterson. Dans le film Patterson, si on le regarde, on voit une créature avec une locomotion qui est tout à fait identique à celle d'un humain. Oui, un gars dans un saut qui marche. C'est ça qu'on voit. Ça. On voit pas une créature qui s'appuie sur ses poings ou qui se dandine comme un chimpanzé ou un gorille. On voit une créature qui marche debout. Une créature comme ça, dans l'histoire de l'humanité, ça n'a jamais existé. Ni de façon fossile, mais ni non plus visible. On ne connaît pas une créature qui se déplace dans les grands primates. Il n'y a aucun primate qui ressemble à ça. Et même dans les humanités reliques qui ont laissé des vestiges ou qui ont laissé des traces fossiles, il n'y en a aucune non plus. Il faudrait donc, si on croit en l'existence du Bigfoot, ça nous oblige à croire que ces créatures, parce qu'on s'imagine qu'elles ne sont pas apparues sous une feuille de chou, ces créatures ont vécu, évolué en marge de l'humanité. Ils n'ont jamais laissé de fossiles derrière eux. C'est comme invraisemblable. C'est donc, c'est pour moi l'argument majeur. Donc, on a beau essayer de me dire, oui, regarde le film ici sur cette image-là, on a l'impression de ci ou des impressions, c'est pas des preuves, ça. Et la preuve, on a une preuve anthropologique qui nous dit, attention, une créature comme ça, ça n'a jamais existé. Et ça, sur ce point-là, quand je discutais avec Jeff Meldrum, il n'avait absolument aucun argument à me proposer. Meldrum a publié en 2006 un excellent livre, en tout cas pour les amateurs, qui s'appelle Sasquatch, Legend Meets Science, la légende rencontre la science. Ce livre-là, s'il a été bien accueilli par les amateurs de Bigfoot, c'est un beau livre, richement illustré. Mais sur le plan scientifique, le livre a été très mal accueilli. Il a été littéralement torpillé par les anthropologues, par les paléontologues, par les zoologues qui disaient « Tout ça, là, c'est de la bouillie pour les chats, c'est du grand n'importe quoi. » Bref, avec le décès de Jeff Meldrum, les amateurs de Bigfoot ont perdu une caution scientifique parce que Meldrum était à peu près le seul qui était un scientifique reconnu, qui avait une formation académique, qui enseignait dans une grande université, qui était prêt à aller, comme on dit, à aller au bâton pour défendre le Bigfoot. Avec la mort de Jeff Meldrum, je pense que les amateurs de Bigfoot ont perdu leur meilleur allié. Donc voilà, je voulais souligner ça, oui. La mort de Meldrum. Et là, ben, je pense qu'on va prendre une petite pause.
Tout à fait.
On va poursuivre après.
Au retour, j'imagine qu'on va débuter le deuxième segment avec l'étude sur le gut feeling.
Oui, oui, c'est ça, la sensation. Est-ce que nos sensations peuvent prédire l'avenir?
Oh, ouais.
On s'en reparle. Ben, nouvelle étude.
Très curieux. Bougez pas, vous êtes dans les Radio X-Files sur les ondes de choix 98.1 Radio X. On revient après ceci.
Radio X-Files.
Avec Christian Page.
Radio X. Couture. Dans le mille.
Tous les jours, 10 millions.
Je savais que ça te faisait.
Hey, Joël Lightborn, bravo, là. Mais ça fait longtemps que ça aurait dû allumer, là, à Ottawa, là.
Ben oui, il y a juste au gouvernement que tu peux perdre 10 millions par jour puis pomper ton monde comme des innocents à tous les annexes des impôts complètement débiles. Essaye d'expliquer ça dans un cours d'économie 101 puis il te regarde avec des grands yeux. Ben voyons donc. Personne qui fait ça, mais oui.
10 millions par jour.
Les gouvernements font ça.
Couture dans le mid.
Lundi au vendredi, 10h.
Radio
X.
Présenté par Céramique L'Entrepôt. En ce moment, profitez de gros rabais comme du vinyle click à 1,79$ le pied carré et du plancher flottant à 99 sous le pied carré. Céramique L'Entrepôt, 850 Pierre Bertrand.
Les prix employés Ford sont en cours et vous payez ce que nous payons pour un nouveau Ford. Visitez votre détaillant Ford du Québec ou Ford.ca.
C'est la vente pas chère en crime chez Maxi. Le bœuf haché maigre 908 grammes est à 10$. Les raisins à 1,37$ la livre, 3,02$ le kilo. Et le jambon aux courses à 2$ la livre, 4,41$ le kilo. Pas de circulaire par la poste? Pas de problème. Plus de rabais en ligne et chez Maxi.
L'embarquement pour le vol 246 à destination de Montréal est retardé de 50 minutes.
Ah, ben là!
On dirait que c'est l'heure d'Ojo.
Play Ojo? Bonne idée!
Profitez de tous vos jeux préférés comme Wolf Gold et Joker's Jewels et des jeux exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Wouhou! J'ai gagné!
Sentir le plaisir, Play Ojo!
L'embarquement commencera dès que les passagers auront fini de célébrer.
Yeah! Ouvert à tous les joueurs de 18 ans et plus, il ne s'agit pas d'un site de jeu. Veuillez jouer de manière responsable.
En montant dans le nouveau BZ4X chez votre concessionnaire, vous pourriez avoir l'impression que votre VUS a pris de l'avance. Parce que pendant que vous êtes encore en train de vous demander si vous avez oublié quelque chose, le BZ4X est déjà chargé. Tout ça grâce à la recharge programmée. Après, tout ce qui vous reste à faire, c'est de le ramener à la maison. L'événement Repartez en Toyota est en cours. Pour un temps limité, vous pourriez obtenir jusqu'à 11 000 $ en rabais gouvernementaux et en incitatifs clients Toyota. Visitez htmatoyota.ca ou votre concessionnaire Toyota du Québec pour toutes les conditions.
Ah, avant chaque saison de cheer, là, c'était toujours pareil. Il fallait encore que je m'occupe de vendre des billets et des gugus pour financer la passion de ma fille. J'étais épuisée. Mais là, avec Pâtisserie Michaud, tout a changé. Le porte-à-porte, là, ben, c'est devenu techno. Ma fille a sa propre boutique en ligne. Elle gère ses ventes elle-même comme une pro. Résultat, moi, je souffle un peu. Puis elle, ben, elle apprend à voler haut. Pas juste dans ses stands, là, mais dans ses ventes aussi. Demandez à votre école ou à votre club de s'inscrire dès aujourd'hui sur pâtisseriemichaud.com.
Pâtisserie Michaud, les campagnes de financement qui forment les leaders de demain.
Desharnais, c'est une grande famille de plus de 200 passionnés qui, en prenant grand soin de votre véhicule, prennent d'abord soin de tous ceux qui montent à son bord. Parce que rouler en confiance et en sécurité, c'est juste parfait.
Du 15 septembre au 20 décembre, obtenez une remise postale allant jusqu'à 100 $ à l'achat de 4 pneus Nokian Tires sélectionnés. Pour la tranquillité d'esprit en toutes circonstances, Nokian Tires, c'est un parcours exceptionnel. Détails et prises de rendez-vous sur desharnais.ca.
Desharnais, c'est juste parfait.
J'ai de l'eau. Ah, j'ai plus d'eau. Ah, OK, là, j'ai de l'eau. Ah, j'ai plus d'eau. Oh, est revenu? Ah, non.
Vous vous reconnaissez? Vous êtes dû pour contacter les Puits du Québec. Des techniques de pointe, des équipes de puisatiers, d'installateurs de pompes expérimentés. Toujours en mode solution pour vos installations existantes et vos projets. Exigez la qualité, bénéficiez des meilleures garanties de l'industrie et obtenez la tranquillité d'esprit. Les Puits du Québec. Puits avec un S.com.
Qu'est-ce qui se passe ici? Il fait quoi par terre, lui?
Ben, boss, je viens de dire que les camions Ram 2026 ont une garantie limitée de 10 ans ou 160 000 km.
Ben là, y a-tu dit de s'asseoir au moins?
Ouais, j'y ai pas pensé, boss.
T'annonces pas des affaires big de même sans préparer le monde?
Êtes-vous bien assis? Les camions Ram 2026 sont couverts par la meilleure garantie limitée au pays sur le groupe motopropulseur pour camions pleine grandeur. Jusqu'à 10 ans ou 160 000 km. Une autre preuve de l'engagement Ram envers la fiabilité à long terme. Certaines conditions s'appliquent, VEB exclus. Détails chez votre concessionnaire.
Maison Adam.
Modernisez votre équipement audio avec les experts de Maison Adam. Profitez d'une réduction de 20% sur les performants haut-parleurs Bison et Loon de la marque québécoise Totem, vous offrant une sonorité riche et détaillée. Rendez-vous au 710 rue Bouvier ou visitez maisonadam.ca pour les meilleurs conseils, services et produits au meilleur prix garanti.
Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.
La méga-vente des foyers Dombard, ça se passe maintenant. Du 25 au 28 septembre, jusqu'à 70 % de rabais sur nos foyers et poêles à bois des plus grandes marques, incluant Dombard, Valcourt au gaz, Enerzone, Drolet, Napoléon et plus encore. C'est aussi le meilleur temps pour profiter d'un service d'installation avant l'hiver. La méga-vente des foyers Dombard, ça se passe maintenant en boutique de jeudi jusqu'à dimanche au 741 Saint-Vallier-Ouest. Manquez pas ça. Radio X vous attend sur place rue Saint-Vallier-Ouest.
En Suède, le minimalisme n'est pas synonyme d'ennui. Il s'agit d'éliminer le superflu et de perfectionner le reste. Polestar 3, le VUS électrique qui se conduit comme une voiture de sport. Pas de parure, pas de fioritures, simplement le design et la performance perfectionnés. Louez votre Polestar 3 pour seulement $899 par mois sur 12 mois avec $0 d'acompte. Oui, $899 par mois, mais uniquement jusqu'au 30 septembre. Visitez Polestar Ville de Québec ou Polestar.com. Les conditions s'appliquent.
Radio X Files
avec Christian Page.
Radio X.
On est de retour dans les Radio X Files sur les ondes de choix 98.1 Radio X. On disait avant de partir en pause qu'on allait parler du gut feeling, c'est-à-dire que ce que je ressens pourrait éventuellement prédire l'avenir, c'est ce que j'en comprends.
Mmh. Ouais, c'est voilà. Voilà.
Mais moi, très Thomas Christian moi. Alors, il va falloir.
On a tous compris que l'expression gut feeling, là, c'est ce qu'on ressent dans nos tripes. Hein?
Oui,
on a comme une impression, une sensation dans nos tripes. Et il y a eu plusieurs études qui avaient été faites là-dessus. Là. On en a une nouvelle qui semble confirmer les autres études. Mais bon, c'est toujours, faut toujours se rappeler que dans l'univers du paranormal, et en particulier en parapsychologie, on est toujours en présence de l'enfant pauvre. Il n'y a pas de grandes universités qui financent à grand cachet des études sur la perception extrasensorielle ou des trucs comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chercheurs sérieux. Ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas de société sérieuse. Je pense notamment à la Society for Psychical Research ou la Psychic Foundation aux États-Unis. Donc, on a des organismes qui sont très sérieux, qui ont une approche très rigoureuse de ces sujets-là, mais avec des moyens souvent très, très limités. Et là, on vient des douaniers d'un peu de la recherche en parapsychologie, le docteur Dean Radin, qui est maintenant à sa retraite, mais qui était autrefois à l'Université du Nevada, qui est un individu très, très impliqué là, depuis les années, je dirais facilement les années 80, impliqué dans la recherche en parapsychologie, avait mené plusieurs études sur ce qu'on appelle le gut feeling, la sensation là, intestinale dans nos tripes. Là. Est-ce que si la perception extrasensorielle transcende le temps. Là, je vais essayer d'expliquer. C'est assez complexe, là, mais on va essayer de mettre ça assez simple. La position de Dean Radin, c'est que la perception extrasensorielle transcende le temps. Elle n'est pas limitée par le temps. C'est ce qui fait que les gens qui ont des flashs comme ceux-là, est-ce que c'est par un talent, parce qu'il y a des gens, je suis médium, je suis voyant, ou est-ce que c'est simplement une perception là, spontanée, presque accidentelle? Mais la position de Dean Radin, c'est de dire, OK, si des gens ont cette faculté-là, ou que ça arrive accidentellement, et que la perception extrasensorielle transcende le temps, est-ce que ce que l'on ressent pourrait être un reflet du futur? Donc, ça c'est assez complexe, mais on est parti de la prémisse. À partir de cette prémisse de base, on a branché des gens sur des électroencéphalogrammes, donc une trentaine de candidats qu'on a branchés sur des encéphalogrammes. Et on les a présentés. Et on avait des cartes qu'on tirait au hasard, donc avec une espèce de brasseur de cartes automatisé. Et on avait deux types d'images seulement. On avait des images qui montraient des scènes relativement joviales, un lever de soleil, des enfants qui s'amusent, donc tu vois un peu le genre. Et on avait ensuite un groupe d'images qui étaient des images plus sombres. Un cercueil, un cimetière, un accident de voiture. Donc tu vois des images qui évoquent des sentiments négatifs. Et la position de Radin, c'est de dire, OK, et comme on est en présence d'un brasseur de cartes automatisé, ben évidemment on passe pas d'une carte le fun à une carte mauvaise de manière soutenue. Là. Tu sais, je veux dire, tu peux avoir quatre bonnes cartes puis une mauvaise carte puis cinq bonnes cartes puis on le sait pas. Donc c'est vraiment le hasard qui détermine ça. Donc à partir du moment où les gens ont participé à l'expérience, Radin est parti du principe, si on est capable de percevoir l'avenir, la personne, quand on regardait de manière générale, les gens, quand on regarde le tracé de l'encéphalogramme, quand les gens regardent une carte agréable, on a un tracé très précis. Donc, comme je l'ai mentionné, un lever de soleil, des enfants qui s'amusent. Donc, on a un tracé particulier. Quand la carte présente une image négative, le graphique est différent. Hein? Ça ne stimule pas les mêmes régions de notre cerveau et ça crée d'autres sentiments. Donc, à ce moment-là, le graphique va changer. Raiden s'est dit, si on est capable de percevoir le futur d'une certaine manière, la personne qui regarde les cartes, est-ce qu'elle peut deviner à l'avance quelle va être la prochaine carte qui va suivre? Mmh. Autrement dit, je vois une carte, je donne l'exemple, je regarde une carte de lever de soleil. C'est une carte agréable, j'ai un tracé particulier. Donc, Raiden se disait, il attendait, dans le cas de l'expérience en question, il attendait 5 secondes, hein, avant de dévoiler la prochaine carte pour voir s'il y aurait une transformation dans le graphique en question. Et s'il y a une transformation, est-ce que cette transformation va vers une carte bonne ou une carte mauvaise? Et quelle est la réalité de la carte qui est tirée? Est-ce que tu me suis jusque-là?
Absolument, je comprends très bien. Donc, est-ce que le feeling
va précéder la révélation de la carte?
Oui.
Et crois-le ou non, statistiquement parlant, la réponse est oui.
Ah, ouais.
Donc, les gens ils étaient dans l'attente de la prochaine carte et soudainement, entendons-nous, c'est pas systématiquement à tous les coups, mais de manière statistiquement surprenante et significative, le graphique de l'encéphalogramme se modifiait en fonction de la nouvelle carte qui allait être révélée. Et ça s'est révélé comme relativement positif.
Ah, ouais.
Cette étude... Donc, quand les gens disent « je suis pas allé là parce que j'avais un feeling de pas y aller ou j'ai pas fait ça ou j'ai pris telle décision sur parce que j'avais un feeling », ben l'étude semble démontrer qu'on devrait peut-être être plus souvent à l'écoute de nos feelings parce que si on croit à la perception extrasensorielle, ben effectivement, on pourrait tous être dotés de cette qualité, de ce pouvoir de prévoir d'une certaine façon l'avenir ou d'anticiper l'avenir, phénomène qu'on appelle la précognition. C'est pas la première fois que Raiden faisait cette étude-là. Elle vient simplement confirmer des études qui ont été faites dans le passé. Et ces études, les premières études sur ce sujet-là, ça peut paraître étonnant, elles ont été publiées par la CIA. Parce que maintenant, bon, c'est bien connu, mais moi, quand j'étais jeune, ça fait très très longtemps de ça, je te rassure... Mais quand j'étais jeune, on nous disait « Ouais, la CIA travaille avec des voyants puis utilise les pouvoirs psychiques pour faire de l'espionnage ou des trucs comme ça. » Et ça nous paraissait de la science-fiction. Quand j'entendais ça, moi, dans les années 70 ou dans les années 80, je me disais « C'est de la science-fiction, c'est pas vrai, ça. » Mais c'était tout à fait vrai. En 1995, la CIA a mis fin à un projet qui avait débuté dans les années 70 qui s'appelait le projet Stargate. Et dans le projet Stargate, donc, la CIA a utilisé... Stargate, entendons-nous, est un grand mot parapluie pour définir plusieurs petits groupes ou plusieurs types d'expériences qui ont été menées et qui visaient à utiliser la perception extrasensorielle dans le cadre de missions d'espionnage. La faculté la plus souvent exploitée, c'était ce qu'on appelait le « remote viewing ». Remote viewing, hein, c'est la vision à distance. Donc, on avait fait une sélection. Au départ, on était parti avec 200 soi-disant voyants qui avaient tous été sélectionnés dans les rangs de l'armée américaine. Donc, c'était pas Madame Urtibiz là, qui annonce dans le journal de Québec son « Je suis voyante et ça coûte 20$ ».
Ouais, non, c'est pas pareil.
Donc, on avait un groupe des leaders, les professeurs, appelons-le comme ça. Ça, c'était des groupes de gens qui venaient du domaine privé, qui étaient reconnus pour avoir de la perception extrasensorielle. Donc, des voyants ou des sensitifs. Je préfère utiliser l'expression sensitif que voyant, mais bon, un sensitif. Surtout pas le terme médium, parce que le terme médium, même si on l'utilise parfois dans ce cadre-là, les médiums, c'est plutôt des gens qui contactent les esprits. Hein? Donc, c'est dans le domaine de le spiritisme ou ce genre de trucs-là. Donc, mais je sais que parfois, on a tendance à intercaler ces termes-là. Mais parlons ici de sensitif. Donc, on avait les professeurs, un groupe d'une dizaine de personnes, bien connus pour leur soi-disant perception extrasensorielle. Et ensuite, on a regardé dans les rangs de l'armée une sélection de gens dans certains bataillons, certains groupes militaires, en disant « Ah ouais, tu perds tes clés? » Demande à Bob. Bob, il est bon là-dessus. Il trouve tout le temps les clés. Il réfléchit. Il a un don, Bob. Il a un don pour trouver les clés. Donc, on a fait une sélection. On est parti avec à peu près 200 personnes qui étaient connues dans les rangs militaires pour cette qualité d'avoir une perception extrasensorielle. Et peu à peu, avec le temps, ça s'est raffiné. Et on s'est retrouvé à la fin avec une vingtaine de voyants ou de sensitifs qui travaillaient pour le projet Stargate. Et ce projet-là a perduré du milieu des années 70 jusqu'en 1995. Avec, crois-le ou non, des résultats parfois très étonnants.
Ah,
très,
oui.
très, très étonnants.
Super.
Et En 1995, moi d'ailleurs, ça a été ma grande déception, parce qu'en 1995, quand l'armée finalement a révélé que c'était vrai, c'était pas simplement une rumeur, le projet Stargate était une réalité, on avait vraiment mené ces expériences-là avec des groupes de sensitifs, et on avait l'armée, non seulement l'armée et la CIA, parce que c'est un projet qui était fait en collaboration avec la CIA, la DIA, la Defense Intelligence Agency, qui est l'agence du renseignement pour le département de la Défense, ouais. Et la NSA, la National Security Agency, qui est une agence de renseignement encore plus secrète que la CIA. Tellement secrète que dans les années 70, quand on l'évoquait, les gens disaient « ça n'existe pas sur la NSA ». La NSA, on avait même trouvé un acronyme pour la NSA, c'était « No Such Agency ». Hein? Il n'y a pas d'organisation semblable. Mais la NSA existe bel et bien. Donc, c'était un programme qui était conjoint entre ces trois services de renseignement. Et en 95, quand ils ont rendu public les résultats de Stargate, ils ont à la fois publié les résultats, mais ils ont également publié les expérimentations qui ont été menées. Et là, on découvre des trucs là, tout à fait extraordinaires. Par exemple, il y avait des expériences où on donnait à ces sensitifs une carte, par exemple, sur laquelle n'apparaissait rien du tout. Là. Pas de nom, pas de marque, de territoire, rien du tout. Une simple carte géographique avec rien du tout. Imaginez-vous, vous êtes sur Google Maps, puis il n'y a aucun nom, il n'y a rien qui apparaît là-dessus. Vous ne savez pas si ce que vous regardez se trouve aux États-Unis, se trouve en Asie ou se trouve en Australie. Là. Vous n'avez aucune idée. Ce n'est qu'une carte. Et les sensitifs, certains d'entre eux, je pense en entre autres, qui s'est distingué plus que les autres, qui s'appelait Joseph McMonagall, disait, ben là, je vois ici, là, vous voyez, dans ce bord de mer, là, je vois une usine où on fabrique des sous-marins, puis là, il dessinait les sous-marins, il dessinait les installations, et éventuellement, on a envoyé des avions espions au-dessus de cette région-là, c'était une région des îles Sakhalines, j'ai cette expérience-là, entre autres, en tête, c'était une base, c'était un endroit dans les îles Sakhalines, à l'extrême est de la Russie. Et on a photographié exactement cet endroit-là, une base où on fabriquait, les Soviétiques travaillaient à la fabrication de sous-marins nucléaires. Et les photographies prises par les avions espions étaient tellement de bonne qualité qu'on pouvait voir les installations sur place. Et ces installations avaient été dessinées 2 ans plus tôt par Joseph McMonagall alors qu'il participait à l'expérience du projet Stargate. Donc, il y a des trucs comme ça qui sont tout à fait renversants. Quand, en 1995, la CIA ont finalement rendu public le projet Stargate, ils se sont retirés du projet. Ils se sont retirés non pas parce que la perception extrasensorielle n'existait pas. D'ailleurs, ils ont été très... lorsqu'ils ont publié les conclusions de leur rapport, ils ont été très précis sur cet élément-là. Ils ont dit, on a obtenu des résultats qui sont parfois étonnants. Moi, je dis même plus que c'était pas étonnant, c'était renversant, faut quand même le dire. Mais l'armée dit aussi que les voyants étaient très instables dans leur performance. Mm-hmm. Le matin, tu sais, parfois précis, ils étaient. Ouais. C'est ça. Il y a certaines journées qui étaient très bons, puis d'autres journées qui étaient très mauvais. Or, comme tu peux pas avoir une espèce de stabilité, ben évidemment, tu peux pas monter une opération militaire en te disant, bon, je vais monter une opération militaire, là, l'invasion de l'Afghanistan ici, parce que je pense que les Soviétiques seront pas sur place d'après mon clairvoyant ou d'après mon sensitif. Si c'était sa bonne journée, ben t'es chanceux, mais si c'était sa mauvaise journée, ça va être un véritable massacre sur le terrain, là. Oui. Donc, à cause de ça, la CIA s'est dit, ben, finalement, les résultats semblent démontrer que la perception extrasensorielle existe, mais malheureusement, c'est trop instable pour pouvoir tirer quelque profit que ce soit sur le plan stratégique de ces éléments-là. Donc, elle terminait ses conclusions en disant, ce n'est plus maintenant, comme ça n'a aucune valeur sur le plan stratégique et militaire, ce n'est plus à l'armée d'étudier ces phénomènes-là, mais plutôt aux universitaires, donc dans le domaine civil. Moi, je dois t'avouer, en 95, j'étais sur l'Iran, j'étais parmi ceux les premiers qui ont reçu les documents de Stargate, les rapports d'enquête de Stargate, et j'étais convaincu qu'on était dans un game changer. J'étais convaincu qu'avec l'expérience de Stargate, beaucoup d'universités lèveraient la main pour dire « on va prendre le relais ». Et ça s'est pas produit. Le Stargate est tombé entre deux chaises et ça a été c'est retombé un peu dans l'oubli. Je trouve ça un peu dommage parce que j'aurais aimé qu'il y ait une suite. ne serait-ce que pour confirmer ou infirmer Stargate. Si on avait pu avoir d'autres expériences menées avec d'autres sensitifs en reprenant les mêmes expériences, est-ce qu'on aurait obtenu des résultats analogues? Et est-ce qu'on aurait pu trouver dans la façon dont Stargate travaillait des lacunes qui auraient pu fausser les données? Il y a plein de questions je me suis posées, plein de questions qui restent aujourd'hui sans réponse. On est toujours un peu devant ce fossé, d'un côté ceux qui croient, de l'autre côté ceux qui ne croient pas.
Ouais,
et parmi les expériences menées durant la période de Stargate, on découvre que deux expériences durant la longue période de Stargate qui ont été menées justement par Dean Radin et qui étaient justement sur le même sujet. Est-ce que nos feelings, donc quand les militaires se disent « Ah, j'ose pas mener telle opération parce que j'ai un mauvais feeling que ça va finir dans... Je le sens pas. » Tu sais, est-ce qu'on fait ça? « Je le sens pas. » Ben, je le sens pas. Justement, Radin avait mené deux expériences avec les militaires au sein de l'armée américaine, du département de défense, qui avaient justement révélé ce que sa nouvelle étude vient démontrer ou confirmer, là. On met toujours ça entre guillemets. Donc, c'était pas la première fois que Radin faisait ça, mais c'est la première fois où on voit une étude comme celle-là qui est menée essentiellement sur un plan civil, alors que les autres avaient été menées dans le cadre de l'opération Stargate. Donc, c'est une expérience qui est intéressante, mais évidemment, pour pouvoir tirer des conclusions définitives, il faut absolument qu'il y ait d'autres études qui soient menées par d'autres chercheurs qui soient impartiaux, parce que c'est insuffisant. Puis c'est insuffisant parce que, bon, d'abord, dans un premier temps, il faut quand même le reconnaître. La perception extrasensorielle, ça se loge nulle part. T'sais, tu comprends, on est dans un... T'sais, on peut pas dire, bon, y a-t-il une partie de notre cerveau qui est la partie perception extrasensorielle? Ouais. On n'est pas capable d'identifier ça. Donc, on se dit, on sait où se loge, par exemple, notre sens de l'ouïe, notre sens du toucher, notre sens de la vision, mais la perception extrasensorielle. Et comment peut-on... On n'a même pas une mécanique, hein?
Bon, c'est pas trop si ça se manifeste de quelle manière.
Voilà, ouais. C'est ça, parce que c'est sûr que si t'écoutes des émissions, là, Historia ou Canal D, il y a toujours le voyant qui va venir te dire comment que ça marche, mais dans les faits, et Stargate le montre bien, on le sait pas. Si ça existe, comment le cerveau ou l'individu pourrait-il avoir accès à une information qui est impalpable? C'est pas une lecture, c'est pas une information qui est obtenue par la vue, par l'ouïe, par le toucher. Ça vient d'où, cette information-là? Ouais. Et comment le cerveau l'aperçoit, cette information-là?
Ben, par
exemple, d'imaginer ou d'accepter qu'on a comme des espèces d'antennes qui captent quelque chose. T'sais, c'est comme...
Ben, moi, l'exemple que je pourrais te donner, puis tu sais, c'est rien de scientifique, là, puis ça m'est arrivé quelques fois quand j'entre...
Vas-y.
Des maisons que je ne connais pas, ça m'est arrivé quelques fois que j'ai un espèce de feeling... où j'ai l'impression que mon corps devient engourdi et que j'ai comme une espèce d'étourdissement. Ça dure quelques secondes.
T'étais-tu passé à l'SQDC, hein?
Non, du tout, tu sais. Et ça m'est arrivé quelques fois dans ma vie et je ne sais pas pourquoi. C'est une espèce de feeling en entrant dans des maisons que je connais pas.
C'est le gut feeling.
Peut-être.
Parce que les chercheurs, dans ce que tu racontes, les chercheurs ont quand même émis des hypothèses. Il est possible, quand tu entres dans une maison, inconsciemment, que des éléments dans ce que tu vois dans cette maison-là qui sont liés à des souvenirs très, très lointains, enfouis dans ta mémoire, qui sont agréables ou désagréables. Donc, par exemple, t'es tombé quand tu avais 4 ans, tu as déboulé dans l'escalier chez une tante, et quand tu entres dans une maison, il y a un escalier qui, quelque part, dans ton inconscient, te rappelle cet événement-là, et là, tu dis, j'ai un mauvais feeling. Ce mauvais feeling-là, ne relève peut-être pas de la perception extrasensorielle, mais simplement de la mémoire, mais une mémoire très lointaine et très ancienne.
C'est ça,
une photo, une image. T'sais, ensuite de ça, dans l'air, quand on entre dans des maisons, il peut y avoir des éléments dans l'air.
L'odeur,
on parle des ions négatifs, des ions positifs. Il peut y avoir également des odeurs. Il peut également avoir des spores, parce que dans des maisons où il peut y avoir de la moisissure, il peut y avoir des spores qui flottent dans l'air. Donc, ces éléments-là, puis ça reste encore à prouver. On est d'accord là ici qu'on est dans l'univers de l'hypothèse. Est-ce que ces éléments-là pourraient pas avoir une influence sur ta perception du lieu?
Fort possible.
Et aussi l'agencement. On le sait, par exemple, dans les pays asiatiques, par exemple, sont très forts sur le feng shui. Donc, une espèce d'agencement qui a qui suggère une espèce de quiétude, de paix intérieure, qui va faciliter une espèce de dynamique de la pensée, etc. Donc, dans certains lieux, peut-être que quand on est très éloigné d'un feng shui positif, ça se pourrait qu'on réagisse de façon un peu négative à ça. Mais ça, on est dans l'univers de l'hypothèse. L'autre, la dernière hypothèse, évidemment, c'est l'espèce de gut feeling. Hein, tu sens quelque chose par une forme de perception extrasensorielle. Mais encore une fois, faut-il le dire, là, quoi qu'en disent les médiums et les charlatans, là, même si Stargate semble démontrer des éléments qui pourraient suggérer la réalité de la perception extrasensorielle, on n'a strictement aucune idée, si c'est vrai, là, on n'a aucune idée sur la mécanique derrière ça. Donc, ça reste très nébuleux, mais néanmoins, c'est une expérience qui est intéressante, comme plein d'autres expériences, mais elle doit être confirmée par d'autres chercheurs, parce que là, ici, on va vraiment à l'encontre de ce que l'on sait de la science et de l'anatomie. Hein, c'est pas rien que la science, c'est l'anatomie humaine. C'est pas techniquement parlant, là, au niveau neurologique, tu peux pas capter une information en dehors de tes cinq sens. C'est impossible. Donc, il faut accepter qu'on serait dans l'erreur avec cette affirmation. Donc, ça reste à démontrer. Mais comme on n'a pas beaucoup de sous pour la recherche en parapsychologie, c'est pas demain, la veille, qu'on va mener de nouvelles études dans ce sens-là. Donc, il faut le prendre. C'est une étude, comme d'autres, qui est très intéressante, qui semble suggérer une certaine réalité derrière la perception extrasensorielle, mais on est quand même loin d'une validation scientifique.
Vraiment, vraiment intéressant. Puis, tu sais, il y a tellement de oui-dire. On va dire, ah, ben, c'est le subconscient. Ah, mais on n'utilise qu'une simple, infime partie de notre cerveau, blablabla.
Ce qui est faux, ce qui est faux.
Oui, hein.
D'ailleurs, tu vois, c'est amusant que tu soulèves ça. On entend souvent ce discours-là. Hein? Oui. On utilise 10 % de notre cerveau, ce qui est faux. Hein, ça vient de vieilles idées préconçues. À une époque, quand on a commencé à regarder comment fonctionnait le cerveau, assez rapidement, les neuroscientifiques, mais je parle des neuroscientifiques du 19e siècle, ils ont établi que tout ce que l'on fait, hein, donc le fait de penser, le fait de parler, le fait de voir, tout ça, semblait être comprise dans à peu près 10 % de l'activité cérébrale. Ça ne veut pas dire que le 90 % de l'activité cérébrale d'à côté, il ne sert à rien. Là. Il est là, mais on ne sait pas ce qu'il fait. On se dit, OK, la vue, l'ouïe, l'odorat, tout ça, là, ça tient, ça nécessite 10 % de mon cerveau. Le 90 % là, de ce qu'il fait, là, il fait quoi? Aujourd'hui, on commence à avoir des idées un peu là-dessus. Là. C'est peut-être qu'il ne fait rien d'autre que s'auto-nettoyer. Hein? Bon, c'est un peu, ça paraît un peu grossier de dire ça, mais c'est possible que ce soit ça. Puis ensuite, avec le temps, on a découvert que on n'a pas de mémoire. La mémoire en tant que telle, là, le souvenir. On a de la mémoire, mais le souvenir en tant que tel, on se disait peut-être que c'est la gestion du souvenir. Mais en réalité, on n'a pas de gestion de souvenir parce que des souvenirs, on n'en a pas. Hein? À chaque fois où tu évoques un souvenir, tu le reconstruis. Donc, si je te demande, OK, qu'est-ce que tu as fait hier ou qu'est-ce que tu as fait la semaine dernière et tu me racontes tes dernières vacances, il n'y a pas dans ton cerveau, il n'y a pas un compartiment où c'est marqué « dernières vacances ». Ça, c'est non, ça n'existe pas. Quand je vais te dire ça, ton cerveau va se mettre à fabriquer. Hein, il va aller chercher plein de sentiments, de visions, d'éléments. Il va reconstituer tes vacances. Mmh. Et là, tu vas me raconter tes vacances. Généralement, à court terme, ce souvenir-là, il est assez bien reconstruit. Mais à chaque fois que tu vas le reconstruire,
Il va se modifier.
Fait qu'éventuellement, tu vas découvrir dans 20 ans que la façon dont tu racontais tes vacances aujourd'hui et la façon dont tu vas les raconter dans 20 ans va s'être légèrement altérée parce que le cerveau les souvenirs vont se colorer. Les blocs légaux ne s'assemblent pas exactement de la même façon. Donc, on sait que c'est pas ça que fait notre cerveau, le 90%. Mais, soyons clairs, on utilise 100 % de notre cerveau. Même si certaines actions ou certaines performances de notre cerveau nous échappent un peu encore, on utilise 100 % de notre cerveau.
Donc, on sait pas ça. Il y a certaines personnes qu'on remarque, on se dit, pas sûr que c'est 100 % tout le temps. Mais bon, ça, c'est un autre dossier.
Oui, non, ça, tu as tout à fait raison. Donc, il y a encore beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Et ce que semble démontrer, on ne peut que s'enthousiasmer avec les nombreuses recherches qui se font dans ce domaine-là. Mais elle semble bien démontrer que beaucoup des éléments de nos perceptions, ce sont des perceptions qui sont inconscientes. Par exemple, exemple, tu dis, t'sais, moi par exemple, je comprenais pas avant pourquoi j'avais, quand je voyais des gens qui avaient des cheveux roux, j'avais toujours un peu une espèce de résistance. Hein. C'était des gens que je trouvais au départ antipathiques. Mais je suis capable de rationaliser. Quand j'étais jeune, à l'école primaire, j'ai eu à un moment donné une jambette, puis je me suis cassé, je suis tombé à pleine face, puis je m'ai cassé le nez. La personne, le jeune qui m'avait donné une jambette, il avait les cheveux roux. Donc, quelque part, dans mon inconscient, il y a un lien. Quand je voyais des gens qui avaient des cheveux roux, ça ramenait dans ma mémoire un souvenir qui était pas agréable, et immédiatement, j'avais ce sentiment-là. Et c'est probablement, c'est ce que pensent également les scientifiques, c'est probablement la réaction qu'on a tous devant des gens qui nous sont sympathiques ou antipathiques. Probablement que quelque chose dans leur visage, leur façon de s'exprimer, la forme de leur nez, la forme de leurs yeux, nous rappelle soit des souvenirs agréables et des souvenirs désagréables. Et ça n'a rien à voir avec l'énergie ou l'aura ou des trucs comme ça. C'est simplement le rappel de souvenirs qui sont profondément enfouis dans notre inconscient.
On aurait pu faire une autre heure juste avec ça.
Ah oui, ce sont des